Alors, pour récap, donc les deux dernières fois, avec le père Eric, vous avez vu l'alliance avec Abraham. Pourquoi en deux fois? Parce que, je pense que vous vous en êtes un peu rendu compte, mais donc en fait, pour comprendre l'alliance avec Abraham, il fallait d'abord comprendre ce que le déplacement que le Seigneur lui a invité à faire, quitter sa terre, sa famille, son pays, pour ensuite recevoir, voyez, l'alliance du Seigneur et accueillir ce projet d'alliance que le Seigneur avait avec lui. Ça, c'était les deux dernières séances. Et là, pareil, on arrive avec Moïse et on aura de nouveau deux séances sur Moïse. Une première aujourd'hui où ce sera l'appel de Moïse et la libération du peuple de l'Égypte. Rassurez-vous, hein, je vous referai un petit récap de... parce qu'on commence un nouveau livre, hein. On a quitté la Genèse et là, on commence l'Exode. Je ferai un petit récap pour vous situer un petit peu. Et puis ensuite, après les vacances, on fera plus précisément l'alliance avec Moïse. Ok ? Alors, je vais d'abord vous lire un petit passage. Et puis ensuite, on prendra un petit temps de silence. Et vous vous mettrez par 3-4 pour partager autour de ce que vous avez entendu. Ça va ? C'est ça ? J'en vois qu'ils font des gros yeux. Non, en fait, vous dites ce que vous voulez, quoi. L'idée, c'est d'écouter, de laisser résonner cette parole en vous et de pouvoir échanger simplement avec vos uns en disant bah, « tiens, ça c'est bizarre, j'avais jamais entendu ça comme ça » ou au contraire, ce texte, je le connais absolument pas. Je sais même pas qui est Moïse, d'ailleurs. Et vous voyez, enfin, l'idée, c'est de pouvoir simplement partager avec d'autres. Du livre de l'Exode, au chapitre 6. Dieu parla à Moïse. Il lui dit « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Mais mon nom, le Seigneur, je ne l'ai pas fait connaître. Ensuite, j'ai établi mon alliance avec eux, m'engageant à leur donner la terre de Canaan, la terre étrangère où ils étaient venus en immigrer. Puis enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël réduits en esclavage par les Égyptiens. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, parle ainsi aux fils d'Israël. Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous rachèterai d'un bras vigoureux et par de grands châtiments. Je vous prendrai pour peuple et moi je serai votre Dieu. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui vous fait sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Puis je vous ferai entrer dans la terre que la main levée, je me suis engagé à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous la donnerai pour que vous la possédiez. Je suis le Seigneur. » C'est important de comprendre que, voyez, l'alliance que l'on va voir aujourd'hui, l'alliance avec Moïse, il ne s'agit pas d'une nouvelle alliance. On avait vu, par exemple, qu'avec Noé, il s'agissait, vous voyez, d'un nouveau départ, hein, que Dieu repartait après le déluge. Dieu voulait redonner une chance à l'humanité et donc repartait. Là, vous voyez, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais tout de suite, dans le texte qu'on a entendu, Dieu parle de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et donc, en fait, on situe tout de suite la question de tout ce qui va se passer ensuite dans cette alliance que Dieu avait faite déjà avec Abraham, et là on est avec les descendants d'Abraham un peu plus tard. Vous voyez, c'est important de comprendre ça, c'est que là, pour Dieu, il ne va pas s'agir de redonner une nouvelle alliance différente, mais plutôt de dire, bah, en fait, j'ai fait une alliance, j'ai promis quelque chose, j'ai promis une descendance, j'ai promis une terre, j'ai promis une bénédiction. Bah, en fait, comment, dans le déploiement de l'histoire, cette promesse-là, malgré, vous voyez, c'est ce qu'on va voir maintenant dans le contexte de l'Exode, malgré les problèmes de la vie, comment cette alliance de Dieu va vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à Jésus. Donc vous voyez, il y a trois points de l'alliance avec Abraham qu'on avait donné. La première, c'était celui d'une grande fécondité. Hein, Dieu avait dit qu'il rendrait Abraham fécond. Et là, au tout début du livre de l'Exode, on a cette phrase « Les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants au point que le pays en fut rempli. » Vous voyez là, on nous montre que ce que Dieu avait dit à Abraham est en train de s'accomplir. Ça, c'était le premier point, la question de la fécondité. Il y avait aussi le deuxième aspect, c'était celui de l'amitié avec Dieu. C'est que le péché nous sépare de Dieu. Du coup, la grande question, ça va être, en fait, comment on peut vivre cette amitié avec Dieu? Eh bien, on va voir avec Moïse que Moïse va pouvoir parler face à face avec Dieu et que si Dieu vient libérer le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, c'est en vue de prier, de pouvoir, enfin, que son peuple puisse le prier. Vous voyez, cette deuxième question de pouvoir voir Dieu, de la relation avec Dieu, ça va être au cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et enfin, la troisième partie de la promesse, c'était la terre. Je te donnerai une terre, la terre de Canaan, on vient de le réentendre dans le texte. Et bien ça, on le verra un petit peu après. Mais vous voyez, ça va être encore tout l'enjeu de l'alliance avec Moïse. Alors, parenthèse là sur le livre de l'Exode. Donc, on a fini le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, ça se finit un peu mal. Donc, Joseph, ok, Joseph, qui est un des fils de Jacob et qui est le petit-fils de Abraham. Ça va jusque-là? Il y a une promesse qui est faite à Abraham. On lui dit, bon, moi, tu auras une grande descendance. Ben, là, on est clairement dans la descendance d'Abraham. Mais bon, il a plusieurs frères, Joseph. Par jalousie, ils vont le vendre. Il va se retrouver en Égypte. Je ne sais pas si certains ont vu le dessin animé Le Prince d'Égypte, c'est cette histoire-là. Bon, voilà, il arrive en Égypte. Et en fait, en Égypte, eh ben, il va être nommé à un poste important. Ça va être le second, en gros, de Pharaon. Et à ce moment-là, arrive une famine en Israël. Et donc, ils vont venir chercher refuge auprès de l'Égypte. Les frères de Joseph, ne sachant pas que Joseph est encore en vie, ils pensent qu'il est mort. Et en fait, finalement, c'est Joseph qui va les accueillir et c'est lui qui va leur donner de la nourriture. Et ensuite, ça va, je vous suis jusque-là ou pas?
Oui.
Okay, donc le frère qui a été trahi, okay, va accueillir, va pardonner à ses autres frères qui l'avaient trahi. Il va les nourrir parce que lui, il n'est pas dans la famine comme le sont ses frères. Et ensuite, Pharaon va proposer à la famille de Joseph de s'installer en Égypte. Donc ça, c'est la fin du livre de la Genèse. Début de l'Exode, donc c'est le livre juste après, ça nous raconte que, en fait, cette famille qui vient de s'installer, et c'est la phrase que je vous ai lue, là, les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent, ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. C'est qu'en fait, pendant environ 400 ans, en fait, les Israélites vont être féconds en Égypte et donc vont prendre de plus en plus de place. Donc au début, c'était une famille qui était accueillie. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient un peuple de plus en plus nombreux qui est donc en Égypte. 400 ans après, ça veut dire que le pharaon, entre-temps, il est mort, il a changé. Joseph aussi est mort. Et le nouveau pharaon ne voit pas la présence de ce peuple étranger comme une bénédiction. Et donc là, il va d'abord les réduire en esclavage. Il va leur dire, on va les forcer à faire des travaux durs. On va leur donner une vie qui sera compliquée. Et donc, ça va devenir un peuple faible. Et voilà. Bon, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, il va aller beaucoup plus loin. Et là, vous voyez, certains disent que c'est l'image la plus cruelle que l'on peut avoir du mal dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ça va être le moment où Pharaon va ordonner de faire tuer tous les garçons israélites. D'accord ? Donc, ça va être un ordre qu'il va donner. Et donc, tous les garçons israélites qui naissent doivent être jetés dans le Nil. Il y a un garçon qui devait être jeté dans le Nil, mais sa maman décide de le mettre dans une corbeille. Et il y a une dame qui va tomber sur cette corbeille sur le Nil. C'est la fille de Pharaon. Et en fait, elle va récupérer ce bébé qu'elle va appeler Moïse. Moïse, ça veut dire tirer des eaux. Ok ? Moïse, tirer des eaux. Parce que pourquoi ? Moïse, il a été trouvé dans le panier sur le Nil, parce que sa mère ne voulait pas qu'il meure. Et donc, en fait, Moïse, il va être élevé à la cour de Pharaon, alors que lui-même est israélite, mais personne ne le sait. Ça va encore jusque-là ? Ok, donc ça, c'est vraiment le début de l'Exode. Donc, on est dans ce contexte-là où, d'un côté, vous voyez, il y a une animosité de Pharaon qui ne veut pas que le peuple d'Israël se déploie et qui va faire que, du coup, ils vont subir un rude esclavage. Et en même temps, il y a ce personnage, Moïse, qui va grandir, lui, à la cour de Pharaon. Alors, bon, après, il va comprendre qu'il est israélite, il va vouloir aider ses compères qui sont en train de souffrir l'esclavage. Bon, finalement, ça va pas bien se passer. Je vous passe un peu, vous lirez, c'est trop bien comme passage, vous pouvez le lire. C'est les premiers chapitres de l'Exode. Bref, il se retrouve en dehors de la ville. Et là, Dieu va l'appeler. Alors qu'il est en train de garder un troupeau, il va y avoir l'épisode du buisson ardent. Là, je vous fais vraiment un résumé rapide parce que ce n'est pas le cœur de la journée, mais enfin de cette soirée. Mais c'est important que vous ayez en tête pour comprendre où est-ce qu'on est, quoi. Donc Dieu va apparaître à Moïse dans le buisson ardent. Buisson ardent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un buisson en feu qui ne crame pas. Buisson ardent. Ok, c'est juste ça. En fait, c'est... Donc Dieu se révèle dans ce buisson-là. Il va révéler à Moïse quel est son nom. Là, c'est un nom un peu bizarre. Il va dire « Je suis qui je suis ». Je ne sais pas, c'est pas bizarre comme nom. Je ne sais pas si je vous dis « Je m'appelle Je suis qui je suis ». Vous allez me dire « Il est fou ce gars ». Donc Dieu révèle son nom « Je suis ». C'est-à-dire « Je suis celui qui est de toute éternité ». Je demanderai à Dieu pourquoi il s'appelle comme ça. Et Dieu se révèle comme donne son nom. Et ensuite, il va donner une mission à Moïse. Et cette mission... Il va lui dire, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer le peuple d'Israël. Ça va? Ça, c'est le contexte. C'est important d'avoir. Moïse a pour mission de la part de Dieu de venir libérer le peuple d'Israël qui est réduit en esclavage. Alors, je passe maintenant. Du coup, là, on arrive concrètement au texte que je vous ai lu. En fait, j'aurais peut-être dû faire ce petit truc avant de vous lire le texte. Mais bon, donc j'arrive au texte que je vous ai lu tout à l'heure. Vous voyez, dans un mois là, on verra l'alliance de Dieu au Sinaï. Le Sinaï, c'est une montagne. Une fois que Israël sera libre. Et quand on parle de l'alliance avec Moïse, on ne parle pas de ce que je vais vous dire maintenant. Si un jour on vous pose une question sur c'est quoi l'alliance avec Moïse, c'est pas la libération du peuple d'Égypte. C'est pas ça l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse, ça arrivera un peu après, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Mais c'est important de comprendre que ce qu'on va voir aujourd'hui est nécessaire pour l'alliance avec Moïse. Tout comme pour Abraham, il était nécessaire qu'il quitte son pays, qu'il quitte sa parenté et qu'il se mette dans la foi à marcher vers un pays qu'il ne savait même pas où c'était pour recevoir, vous voyez, l'alliance de Dieu. Ben là, il y a quelque chose de similaire. Et vous voyez, dès le début, je vous lis juste ce passage, c'est en Exode 2, donc c'est au tout début du livre, on nous dit « Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent et leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. » Vous voyez, si Dieu va venir libérer le peuple d'Égypte, c'est pour une raison, c'est parce qu'il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. C'est hyper important ça, les amis. Dieu a promis quelque chose à Abraham et à sa descendance. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il devait se passer. Ils sont réduits en esclavage alors qu'ils étaient censés être libres. Et Dieu, parce qu'il se souvient de son alliance et qu'il est fidèle, Dieu va venir les libérer. Ça va ça? C'est vraiment important, les amis, parce que vous voyez, ça va être la même logique pendant tout le reste ensuite de l'histoire sainte, et pour nous, aujourd'hui, de même. Vous voyez, parfois, on peut se dire, Dieu me fait des promesses, ok, Dieu m'a promis la vie éternelle, Dieu me promet le bonheur, Dieu me promet ci, mais je regarde ma vie telle qu'elle est, et ça ne se passe pas du tout comme ce que Dieu m'avait annoncé. Les Israélites, à ce moment-là, ils doivent se dire, ok, notre arrière-arrière-grand-père, on lui a promis tac-tac-tac, et en fait, nous, on arrive après, 400 ans après, et en fait, c'est le contraire, quoi. Vous voyez, la raison de la libération à ce moment-là, c'est la fidélité de Dieu à l'Alliance. Alors, donc on avance un petit peu. L'Alliance, un peuple racheté pour un transfert de propriété. C'est un beau titre, hein? En fait, ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que... Donc là, on est sur la deuxième page. Pour ceux qui... On est au milieu de la deuxième page. Ce qui est important, c'est que ici, le vocabulaire qui est utilisé pour parler... du fait que Dieu va libérer son peuple, ça va être un vocabulaire de rachat. C'est un peu étonnant. On nous dit, Dieu va racheter son peuple. Oui, je vous lis ce passage-là. « Je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. » Et d'ailleurs, une fois que le peuple sera libéré, ce qu'il va dire, c'est Ta grâce, le Seigneur est ma force et mon chant, je lui dois le salut. Ta grâce a conduit ce peuple que tu as racheté. Ta force l'a guidé vers ta sainte demeure. Pourquoi on parle de rachat, à votre avis? Parce qu'on pourrait se dire, Dieu aurait pu simplement les libérer. Ok, tac. Il fait en sorte que le peuple ne soit plus esclave en Égypte. Et puis après, il continue sa vie comme... Vous voyez, Dieu a fait son taf, il les a libérés. Après, bon, ils vont vaquer autre part et ils se trouvent à un nouveau lieu. Et puis ils recommencent, quoi. C'est pas ça l'enjeu ici de la libération. Dieu ne veut pas nous libérer simplement pour dire, ça y est, je t'ai libéré. Et ça vaut vraiment pour nous aujourd'hui. Mais parfois, on crie vers Dieu pour lui demander d'être libéré de quelque chose. Dieu, il n'est pas là pour nous libérer de ce quelque chose. Dieu, il veut qu'en nous libérant de ce quelque chose, nous puissions lui appartenir totalement. Ça, c'est hyper important. Si vous avez un truc à retenir aujourd'hui, c'est que si Dieu nous libère de quelque chose, c'est pour que nous puissions lui appartenir. Et quand on dit que Dieu va racheter le peuple d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va soustraire Israël de l'esclavage pour que ce peuple lui appartienne, pour que ce soit un peuple consacré à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être consacré à Dieu? Ça veut dire être un peuple qui va pouvoir prier avec lui, le peuple qui appartient à Dieu. C'est le cadeau qui nous est fait dans l'Église, le fait d'appartenir à Dieu, de pouvoir, vous voyez, vraiment être totalement tourné vers lui. Ça, j'insiste sur ce point, parce que, vous voyez, il y a un enjeu pour nous de vivre notre vie spirituelle, comme catéchumène ou comme déjà baptisé, vous voyez, de saisir que nos changements dans la vie, c'est pas... Il ne suffit pas simplement de demander à Dieu d'être libéré de telle ou telle chose ou d'espérer que Dieu nous fasse changer de ça ou ça. Mais l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est d'être toujours plus libre pour nous tourner toujours plus vers Dieu. Être libéré de ce qui nous empêche d'être totalement à Dieu. Et être totalement à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être totalement aux autres et à notre Père qui nous a créés, quoi. Oui, ça ne veut pas dire du coup être totalement à Dieu, c'est-à-dire être coupé totalement des autres et passer sa vie à prier seul dans sa chambre. Ça veut dire, vous voyez, être un peuple consacré au Seigneur, c'est-à-dire, vous voyez, dont le cœur est libre pour aimer Dieu et pour aimer les autres. Ça va ce point? Donc, vous voyez, libération du peuple d'Israël en vue d'être consacré au Seigneur. Alors, on nous avait dit qu'il y avait dans les promesses qu'Abraham faisait, que Dieu avait fait à Abraham, il y avait aussi la question de la terre. Parce qu'en fait, va se poser la question, on vous fait sortir d'Égypte, mais où est-ce que vous allez maintenant? Ça, on le verra juste après, avec quand ils vont traverser la mer Rouge. Mais vous voyez, si Dieu a promis une terre à son peuple, ça veut dire qu'il va le faire sortir d'Égypte, mais pour aller vers cette terre-là. Vous voyez? Et si la réponse que Dieu va donner dans l'Exode, ça va être « Je vous ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi le Seigneur. » Vous voyez, à ce moment-là, Dieu est en train de redire à son peuple « J'ai pas oublié ce que je vous ai dit, quoi. » Encore une fois, il faut vraiment se remettre à la place du peuple d'Israël en Égypte. Nous, c'est facile, on est là. Bon, je sais pas si vous connaissez l'histoire ou pas, mais vous connaissez peut-être la fin. Moi, je la connais, mais on peut se dire, c'est facile, quoi. C'est bon, on sait que dans quelques chapitres, ils arriveront dans leur terre promise, et c'est bon, quoi. Ils ont juste à attendre un petit peu. Mais eux, ils sont là, on leur a fait une promesse, et là, ce qu'ils voient de leurs yeux, c'est tout sauf la promesse, quoi. On leur avait promis une terre où ils seraient libres, où ils pourraient prier le Seigneur, et en fait, ils sont dans une terre où ils sont esclaves, et ils sont pas chez eux. Et là, le Seigneur leur redit, je n'ai pas oublié ma promesse, et donc... Cette libération, elle est en vue de quoi? Elle est en vue de l'accomplissement de cette alliance que j'avais faite avec vous, où vraiment je vais vous donner cette terre qui sera la vôtre. Ça va? Courage, on en est à la moitié là. C'est bien. Alors, je vous ai dit que dans le buisson ardent, Dieu avait révélé son nom. Alors, le nom dans la Bible, c'est hyper important. Vous voyez, par exemple, bon, Moïse, sauvé des eaux. En fait, tous les noms dans la Bible ont un sens. On l'avait déjà vu avec Abraham, qui au début s'appelait Abraham, après il s'appelait Abraham. Vous voyez, en fait, quand Dieu donne une mission, généralement Dieu change le nom. Et donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, vous savez que nos frères juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Vous voyez, parce que, en fait, prononcer le nom de Dieu, vous voyez, c'est connaître la personne, connaître sa mission. Vous voyez, c'est connaître la personne dans son entièreté, donc pouvoir prononcer son nom, c'est savoir quelle est la mission de la personne. Et Dieu, vous voyez, nous dépasse tellement que pour les Juifs, en fait, le nom de Dieu était imprononçable. Bon, nous, il a été révélé. Très bien, gloire à Dieu. Mais donc, c'est pour ça que là, le nom qui est donné, c'est celui de « Je suis ». Ok ? Ce que Dieu dit à travers ce nom qui est révélé, c'est la modalité de présence de Dieu, qui est un Dieu qui est présent. Vous voyez ? Qu'on soit en Égypte, esclave, qu'on soit en terre promise, Dieu est « Je suis », c'est-à-dire Dieu présent là où on est. Dieu ne sera pas plus présent, pour ceux qui se préparent au baptême, le jour de votre baptême. Il sera présent d'une façon différente en vous, c'est sûr, mais Dieu est autant présent, voyez, aujourd'hui, qu'il le sera le jour de votre baptême. La question, c'est que du coup, le jour de votre baptême, voyez, vous serez transformé et capable du coup de l'accueillir. Et c'est là la différence, c'est la façon dont on l'accueille. Et vous voyez, Dieu, c'est pas « je n'étais pas » et le jour de ton baptême, « je suis ». Quand il dit que son nom est « Je suis », c'est que peu importe qui on est, peu importe le lieu où on est, Dieu est là. Et vous voyez, dites-vous comment ça doit résonner dans la tête de ces Israélites qui sont en fait, qui eux, en fait, se disent à ce moment-là, Dieu nous a carrément abandonnés, quoi. Et ça reviendra plusieurs fois dans la Bible, ce sentiment d'abandon de Dieu, et peut-être que ça reviendra plusieurs fois dans votre vie et ça revient dans notre vie. Où est Dieu, ce « Je suis », où est-ce qu'il est, quoi ? Ok, donc, vous voyez, le cœur de l'alliance du Seigneur, c'est de redire que, vous voyez, il est là. Il est là avec Abraham quand il lui annonce qu'il aura une grande descendance, qu'il aura une terre, qu'il sera libre. Il est là avec le peuple d'Israël quand il est esclave en Égypte. Il est là quand ils traverseront la mer Rouge. Il est là quand ils seront en terre promise. Et le but de ça, c'est ce qu'on nous dit à la fin, c'est « et vous connaîtrez que je suis le Seigneur ». Vous voyez, c'est la finalité de cette annonce qui est faite à Moïse, c'est que le but de la libération du peuple, c'est que le peuple puisse connaître le Seigneur. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, le but du moment où nous sommes libérés de quelque chose, c'est toujours de pouvoir accueillir plus le Seigneur, donc de connaître le Seigneur. Quand on parle de connaissance ici, il ne parle pas de caté, quoi. Il ne parle pas d'avoir appris plein de trucs sur le Seigneur et de pouvoir dire « Ok, c'est bon, je peux passer mon partiel à la fin du semestre et je serai capable de bien parler du Seigneur, je sais qui il est. » C'est de faire l'expérience d'un Dieu qui vient nous sauver. Et parce que j'ai fait cette expérience-là, Dieu est venu me sauver, alors je peux dire « Je connais Dieu, je connais ce Dieu qui se révèle en disant « Je suis », c'est-à-dire « Je suis celui qui est avec toi quand ça va bien ou quand ça va mal. » Je ne suis pas un Dieu demi-fidèle, quoi. Tant que ça se passe bien, oui, je suis avec toi. Par contre, dès que ça se passe mal, oulala, je me retire parce que j'ai pas envie d'être mêlé à ça, quoi. C'est pas ça. Et vous voyez, c'est cette expérience du peuple d'Israël qui se rend compte que Dieu est autant présent quand ils étaient, quand ils promettaient et qu'ils faisaient alliance avec Abraham, qu'aujourd'hui avec lui en Égypte. Cette expérience-là et de libération fait qu'ils peuvent dire on connaît le Seigneur, quoi. Donc ça, c'était l'introduction. Mais, introduction longue, pourquoi ? Parce que c'est l'introduction de la fois prochaine, vous voyez. C'est pour nous permettre la fois prochaine de bien comprendre l'alliance avec Dieu. Parce qu'il y a un deuxième passage que maintenant je vais vous lire qui est important. C'est le moment où effectivement le peuple sort d'Égypte. Je vous fais un condensé, un résumé rapidos. Mais souvent il est un peu plus connu. Vous savez, c'est les 10 plaies d'Égypte. Donc en fait, là, Moïse, le texte que je vous ai lu, Moïse, il n'est pas encore, enfin, il est pas encore allé voir Pharaon pour lui dire il faut sortir, enfin, il faut libérer le peuple. Donc juste après ça, Moïse prend son courage à deux mains, il prend un bâton, il va aller voir Pharaon avec son frère Aaron et il va demander à Pharaon de libérer le peuple. Alors à votre avis, quelle est la réaction de Pharaon ? Non merci. Je ne sais pas s'il a dit non merci. En tout cas, il a dit non. Hein ? Voilà, donc en fait là il va y avoir, vous irez lire pareil, il y a quelques chapitres, là c'est pas l'idée de, mais donc en fait il va, Pharaon, enfin Moïse va dire en gros libère le peuple, Pharaon va dire non, et à chaque fois il y a cette expression qui va revenir, le cœur de Pharaon s'endurcit. Hein, c'est ça, vous voyez, il faut bien regarder cette expression quand vous la voyez dans la Bible, généralement c'est pas bon signe, mais en fait nous on se rend compte qu'il y a plein de fois où notre cœur s'endurcit aussi. C'est bon, en fait, de voir la conséquence dans la Bible d'un cœur qui s'endurcit. Parce qu'on se dit, du coup, moi, quand mon cœur s'endurcit, logiquement, c'est qu'il y a un truc un peu similaire, alors dans toutes proportions gardées, mais qu'il y a un truc un peu similaire qui va se passer aussi dans ma vie, quoi. Quand mon cœur s'endurcit, généralement, là, ce qui suit, c'est rarement un truc bon pour les autres ou bon pour moi. Et dans la Bible, à chaque fois qu'on voit cette expression « et son cœur s'endurcit », après, il y a des choses négatives qui arrivent, quoi. Donc là, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et face à ça, Moïse, par 10 fois, va, à travers des signes, montrer que c'est vraiment Dieu qui l'envoie et que c'est une demande de Dieu de libérer le peuple. On va y avoir 10, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. Il va y avoir 10 fléaux qui vont arriver sur l'Égypte. Et à chaque fois, Pharaon va dire non. Jusqu'au dernier, où là, Pharaon va dire maintenant, partez. Ok ? Là, je vous lis le passage correspondant, enfin, qui suit ce partez, du coup. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Va dire aux fils d'Israël de revenir camper. » Devant Pi-Pharoth et Migdol, devant Baal-Séphon. Vous camperez juste en face, au bord de la mer. Alors Pharaon dira, voilà que les fils d'Israël, affolés, errent dans le pays. Le désert s'est renfermé sur eux. Alors je ferai en sorte que Pharaon s'obstine, et il les poursuivra. Mais je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée. On annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne restera plus à notre service. » Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Les Égyptiens, sur leurs chevaux, les guerriers et toute l'armée les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et voyant les Égyptiens, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte? C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous. Laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Vous avez entendu ce texte? Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que c'était un peu long, mais donc, effectivement, Moïse... Déjà, il faut noter que c'est quand même assez marrant. Dieu accomplit des grands signes quand même pour que Pharaon accepte de faire sortir le peuple d'Égypte. Donc ça, il le voit, les Égyptiens, enfin les Israélites. Et là, vous voyez, ils sont en train de partir. Ils se tournent, ils voient les Égyptiens arriver. Est-ce que vous avez noté le premier truc qu'ils disent? Est-ce qu'il y en a qui ont noté ou pas? Ouais, on préfère être esclave, quoi. Enfin, en gros, il y avait plein de tombeaux en Égypte. On n'était pas obligé d'être déplacé dans le désert pour mourir, quoi. Autant mourir sur place. Vous voyez, le premier truc, alors que pourtant, ils ont vu des... Et ça, encore une fois, je vous le dis, parce que ça, c'est clairement quelque chose que l'on vit, nous, dans notre foi. C'est qu'il y a parfois, on voit des merveilles du Seigneur dans notre vie, dans la vie des autres. Et c'est vrai que souvent, quand on est le nez dans le guidon, qu'on a une épreuve... Parce que là, bon, encore une fois, il faut se mettre à la place des Israélites, quoi. Ils sont en train... Ils ont pris leurs affaires, ils ont dû partir en hâte pendant la nuit. Ils partent, ils sont en train de s'enfuir. Bon, bah, c'est sûr que tu vois l'armée, toi, tu n'as aucune armée, tu vois toute l'armée égyptienne qui arrive. Bah, c'est sûr que je pense que le réflexe un peu spontané de tout le monde, ce sera de dire, bah, en fait, c'est fini, quoi. Donc nous, parfois, il y a des peurs légitimes qu'on peut avoir au cœur de nos vies. Mais là, c'est intéressant de se dire, bon, bah, en fait, là, moi, quand de façon extérieure, je lis ce passage-là, je me dis, bon, ils sont un peu débiles, quoi, les Israélites. Enfin, Dieu est là, et d'ailleurs on voit la suite, hop, il y a la mer qui s'ouvre. Vous voyez, relisez peut-être ce passage le jour où ça ira moins bien. Le jour où vous avez l'impression d'être vraiment comme ces Israélites bloqués entre la mer d'un côté et l'armée égyptienne. Alors vous mettrez ce que vous voulez derrière ça. Et de vous dire, bah, en fait, ok, là je suis en train de complètement perdre pied, perdre confiance dans le Seigneur. Bah, relisez ces petits passages. Dites-vous, en fait, peut-être que la mer rouge qui va s'ouvrir, elle est juste derrière, quoi. Donc bref, il y a ça. Dieu entend et leur dit, bon ben hop, on ouvre la mer rouge, le peuple traverse à pied sec, et au moment où les Égyptiens vont traverser, à leur tour, l'eau va se refermer. Alors je fais une petite parenthèse là, parce qu'il y a une question très juste qui a été posée, c'était notamment, vous savez que après le déluge, Dieu dit, en gros, je ferai plus jamais de déluge, quoi. Il n'y aura plus de moment où l'eau viendra tuer tout le monde. Là, ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez, c'est que l'Égypte est la personnification du mal. Et c'est là où j'arrive à mon dernier point. C'est que, vous voyez, la traversée de la mer Rouge, pour nous chrétiens, est le symbole du baptême, c'est-à-dire le fait de passer à travers les eaux, de ne pas mourir, mais de laisser au fond de l'eau tout ce qui est le mal. Vous voyez, c'est vraiment le symbole de ce peuple qui traverse vers la terre promise, libérée par Dieu, et qui va laisser au fond de l'eau tout ce qui était mal, c'est-à-dire l'Égypte personnifiée à ce moment-là, d'accord ? Et qui va faire, vous voyez, c'est vraiment ceux qui vont être baptisés cette année, l'année prochaine, dans plusieurs années, je ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment ça qui se vit le jour du baptême. Et avec le père Eric, on voulait faire une petite parenthèse sur le baptême par immersion. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de baptiser. Il y a ce qu'on appelle le baptême par intinction. Donc, on met de l'eau sur le front d'une personne. Ça marche. Et il y a le baptême par immersion qui marche aussi. Mais qu'on fait, nous, à Saint-Nizier, notamment soit pour les enfants qui le souhaitent, mais sinon pour les adultes, pareil, encore une fois, pour ceux qui le souhaitent. Mais vous voyez, c'est très beau le baptême par immersion parce que ça nous dit quelque chose de cette traversée dans la mer Rouge. Alors là, c'est pas à pied sec. Il n'y a pas de... Mais donc, vous voyez, celui qui va être baptisé est plongé trois fois entièrement dans l'eau. Et vous voyez, ce passage de la mer Rouge qui est le passage de la vie ancienne, la vie de l'esclavage, en vue de passer à la terre promise, le lieu où Dieu nous redit « Je suis fidèle à mon alliance » et on va laisser au fond de l'eau tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, pour vivre en étant consacré au Seigneur parce que je vous ai racheté. Vous voyez, c'est vraiment cette expérience-là lors du baptême, quand on est plongé trois fois dans cette eau et qu'on ressort, c'est vraiment la même dynamique, quoi. On est plongé, vous voyez, dans la mort du Christ, on laisse tout ce qui nous empêchait d'être en relation avec Dieu et on ressort comme le Christ, vous voyez, vainqueur, libéré. Ça ne veut pas dire qu'après on ne refait pas de péché, parce qu'on voit bien que au bout d'après ça revient, mais vous voyez, il y a quelque chose d'hyper profond là-dedans à saisir, dans cette dynamique d'un Dieu qui dit « Je suis », donc j'étais là même avant, que tu sois baptisé ou pas, que tu sois en esclave en Égypte ou pas, je suis là. Je suis là, que tu aies confiance ou pas en moi, parce que vous voyez, les Israélites, quand ils disent « On aurait mieux fait de mourir en Égypte, enfin franchement, pourquoi tu nous as libérés ?» Dieu aurait très bien pu dire « Ok, c'est bon, quoi, vous restez comme ça, stop, quoi. » On est marre. Il aurait pu, hein. Bon, en fait, il est encore là. Il est là quand il les fait traverser la mer. Il est là quand ils vont arriver en terre promise. Je suis. C'est un truc qu'on peut retenir. Et vous voyez, cette traversée des eaux, cette libération en vue d'être consacré au Seigneur, d'être racheté au Seigneur, c'est l'image du baptême. Une des images, on avait déjà vu avec Noé que c'était aussi, que le déluge était une image du baptême, de cette eau qui purifie. Et bien, on en a une deuxième. Je vous lis ce petit passage qu'on a, le moment où on bénit l'eau. Au moment où on bénit l'eau, le soir de la vigile pascale, on dit « Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Hein, » Pour que la race libérée de la servitude, pour que chacun de nous libéré de la servitude, préfigurions le peuple des baptisés. Ça va ? Alors on vous pose trois petites pistes. On finit à 15, c'est ça ? 10, 15, je ne sais jamais. À 20h, ok. Alors. Non, mais t'as raison, mais c'est bien. On finit à 22h aujourd'hui. Alors, les questions que vous pourrez vous poser, c'est, elles sont trois, j'en ai noté trois, c'est de quoi le Seigneur m'a-t-il libéré et par quels moyens ? Si le Seigneur nous libère, c'est pour lui appartenir, c'est une nouvelle liberté pour prier et aimer Dieu, comment cela s'est manifesté dans ma vie ? Et enfin, je suis là et le nom du Seigneur, comment est-ce que je vis cette bonne nouvelle ? Alors, avant de répondre à une ou deux questions, et de clôturer à 20h, ce temps passé ensemble, on va reprendre juste deux minutes à deux ou trois, et peut-être simplement de pouvoir partager une chose d'une libération qu'on a pu vivre ou pas, ou d'une demande de... vous partagez ce que vous voulez, mais sur le thème là de la libération, de Dieu qui nous libère pour être, vous voyez, plus disponible pour les autres, pour lui. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Bon, let's go, allez-y, puis on verra. Donc on voit qu'il y en a qui ont plein de choses, enfin que c'est vraiment que cette question les inspire, d'autres un peu moins. Je vous invite notamment à, c'était peut-être un peu abrupt, mais à y penser dans les prochains jours, quoi. Enfin, le Seigneur nous a tous libérés à un moment donné de quelque chose. Ça vaut le coup, vous voyez, de pouvoir en faire mémoire. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour remettre des mots dessus. Mais donc je vous invite vraiment dans les prochains jours à prier avec ça, avec cette question. Moi je m'étais dit, oui, je ne vais pas partager, mais du coup je vous le partage. Là, enfin, j'ai repensé là pendant ce petit temps. J'avais 18 ans, c'était très beau. J'étais au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et je suis allé me confesser. Je ne m'étais pas confessé depuis, je pense, 5 ou 6 ans. Et notamment, c'est pour ça qu'en fonction de la vie de chacun, c'est beaucoup, pas beaucoup. Mais voilà, donc moi, et en fait, notamment, je portais quelque chose, une grande culpabilité pour quelque chose que j'avais fait à une personne. Et je suis allé me confesser de ça. Et je me suis dit. Bon, ben, c'est sûr, après, du coup, je serai tranquille, quoi, par rapport à cette question-là, j'aurais confessé, et puis... Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Sauf que le prêtre m'a dit cette parole, il m'a dit, maintenant que Dieu t'a donné son pardon, il faut que tu ailles demander pardon à la personne. Donc ce jour-là, j'étais à la fois libéré d'une culpabilité, et en même temps encore plus angoissé. Et j'y suis allé plusieurs semaines après, demander pardon à cette personne, et je crois que j'ai vécu un des moments les plus beaux de ma vie, à ce moment-là, donc je lui ai demandé pardon, je lui ai expliqué pourquoi. Cette personne n'était pas croyante, donc elle n'a pas compris, elle m'a juste dit ok. Mais elle est revenue me voir un mois après. Et là, c'était vraiment trop beau. Et en me disant qu'en fait, elle, c'est la façon dont elle avait rencontré le Seigneur. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est que moi, en plus d'avoir été libéré d'un poids de la culpabilité, j'ai vraiment compris ce jour-là que si Dieu me pardonnait et qu'il était vraiment vivant, c'est qu'il me donnait le cadeau de moi aussi pouvoir pardonner parce qu'il était vivant et que peu importe la situation dans laquelle j'étais, il y aurait toujours un chemin de vie. Et je suis sorti de cette expérience-là en me disant, c'est dingue, Dieu existe vraiment, quoi. Et vous voyez, moi, ça a été, cette libération, ça a été pour moi le déclic de comprendre que Dieu était vivant et qu'il existait. Et en plus de ça, ça a été de nouveau une belle amitié avec cette personne et qui lui a permis en plus de rencontrer Jésus. Donc bingo total, quoi. Voilà, bon, je vous partage ça parce que je pensais à ça. Bon, il est 20h. Désolé pour les questions. Sachant que la prochaine fois, on reparle de Moïse. Donc, peut-être qu'au début, on prendra un petit temps. Vous voyez, si vous avez des questions, soit vous en parlez en frat la semaine prochaine. C'est pour ceux qui sont en frat. Bon. Bref, vous cherchez sur Internet. Vous posez les questions dimanche quand vous allez à la messe ou pas. S'il vous plaît, je termine juste. On va finir par un Je vous salue Marie ensemble. Et donc n'hésitez pas à revenir avec vos questions dans 2 semaines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, on te remercie pour ton œuvre de libération dans le peuple d'Israël, dans chacune de nos vies. On te demande de continuer cette œuvre-là, que nous puissions être toujours plus libres pour te prier, t'aimer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.